Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La capitale irakienne, théâtre de violence entre partisans de Moqtada Sadr et l'armée, 23 manifestants ont été tués par balles depuis hier. La visite d'Emmanuel Macron en Algérie a consacré la volonté d'aider la jeunesse des deux pays, des mots du président de la Fondation de l'Islam de France. Khaled Bencher, qui faisait partie de la délégation officielle qui a accompagné le président français lors de ce déplacement entre jeudi et samedi dernier. Khaled Bencher sera l'un de nos invités. Première rencontre à Paris entre la chef du gouvernement tunisien et son homologue française, Elisabeth Borne, Najla Bouden, qui s'est entretenue hier avec le président du mouvement des entreprises de France. L'invité de Pluriel hier soir était Dienaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France. Elle a exprimé son inquiétude face à la forte hausse des prix. Extrait dans votre journal. Bagdad, théâtre de violence entre partisans de Moqtada Sadr et l'armée irakienne. 23 manifestants ont été tués par balles. Depuis hier, au moins 380 personnes ont été blessées dans les violences dans la zone verte de la capitale irakienne. Ce quartier ultra sécurisé où siègent les institutions gouvernementales et les ambassades occidentales. Les violences sont éclatées après l'annonce surprise par Moqtada Sadr de son retrait de la vie politique. Des milliers de ses partisans ont aussitôt envahi le palais de la République où siège le Conseil des ministres avant d'en être chassé. Le président algérien et son homologue français Emmanuel Macron ont signé samedi une déclaration qui appelle à une nouvelle dynamique irréversible pour leurs relations bilatérales. Parmi les membres de la délégation qui ont accompagné le président français, le président de la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher, pour qui cette visite officielle d'Emmanuel Macron en Algérie a consacré la volonté d'aider la jeunesse des deux pays. Entretien avec Khaled Bencher.
Il est clair que les présidents français, quand ils se rendent en Algérie, leur visite requiert un aspect particulier et revêt une importance capitale. Cette visite n'en a pas manqué, bien au contraire, son importance est tout aussi capitale. Et elle vient dans un contexte de tension réelle qu'il fallait apaiser, notamment entre les deux pays. Et leurs relations ont toujours été passionnelles, passionnantes, conflictuelles, complexes, faites à la fois d'admiration réciproque et de tension, de fâcheries, de conflits véritables, de blessures, mais aussi d'une grande espérance pour l'avenir. Je ne voudrais pas reprendre toute la sémantique qui caractérise ce genre de visite, mais celle-là, elle est véritablement orientée vers l'avenir, vers la jeunesse, vers l'apaisement, vers la cicatrisation des blessures, vers une prise en charge véritable des questions mémorielles. Et j'en veux pour exemple la création de la commission mixte d'historiens à parité, à part égale entre des historiens algériens et des historiens français pour aplanir véritablement les difficultés liées à cette question de la mémoire. Les uns paraissent pâtir d'une amnésie sur certains points, et les autres d'une hypermnésie. Donc on trouvera une situation objective, réelle, qui ne souffre aucune tergiversation quand ce travail sera rendu. D'aucuns disent, et non sans raison, qu'il ne faut pas mettre le colonisateur et le colonisé sur le même plan, c'est vrai, mais il faut aussi voir tous les plans d'une relation aussi complexe et aussi passionnelle. Le deuxième point, c'était aussi une visite qui a consacré la volonté d'aider la jeunesse des deux pays, la jeunesse notamment algérienne, la jeunesse franco-algérienne et par là même la jeunesse française, parce que les destins sont communs. Et le destin est unique, si j'ose dire, de part et d'autre de la Méditerranée et les deux rives se faisant face, doivent coopérer et œuvrer inlassablement pour un bien commun et pour un avenir radieux au-delà des mots, pour les deux nations. Et le troisième point, est dans une optique, était et toujours dans une optique de dialogue des cultures, de dialogue des religions. J'ai eu moi-même, tout en regrettant l'absence du grand rabbin Haïm Korsia, et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement, j'ai eu des entretiens privilégiés, poussés, cordiaux, fraternels, aussi bien avec l'archevêque d'Alger, Monseigneur Vesco, qui est un ami, Jean-Paul Vesco, et qui est un homme qui incarne les valeurs de l'Évangile, un homme de dialogue, un homme d'une grande ouverture, et aussi mon ami et le recteur de la grande mosquée d'Alger, cher Mamoun Qassimi, qui connaissait bien mon père sur le plan personnel et avec qui nous avons voulu établir des relations d'amitié et de coopération entre son institution et la fondation. Voilà, donc globalement, le bilan est positif, porteur d'espérance et de sens, et encore une fois, notamment pour la jeunesse.
Et ce déplacement officiel avait également, vous le soulignez, une vocation cultuelle.
D'un côté, nous avons un État laïque où la séparation est réelle et de fait et de droit entre les considérations culturelles et les considérations politiques. En Algérie, nous n'en sommes pas encore là. Cette dimension-là de dialogue interreligieux, pour que la grande famille abrahamique puisse se retrouver aussi bien en France qu'en Algérie. De ce point de vue-là, oui, ce voyage avait cette dimension-là. Je répète toujours que la Fondation n'a pas une vocation à mettre en avant les considérations proprement culturelles, puisque notre institution est laïque, à vocation éducative, culturelle et de médiation sociale et à portée philanthropique aussi. Mais quand il s'agit des hommes et des femmes de bonne volonté de se retrouver, de parler, de dialoguer dans un esprit de fraternité et de coopération mutuellement avantageuse, la Fondation est toujours présente.
Cet apaisement voulu sur les questions mémorielles, vous qui étiez sur place, qui faisiez partie de cette délégation, l'avez-vous ressenti?
Assurément, oui. Tous nos interlocuteurs, qu'ils soient français, algériens, franco-algériens, à commencer par ceux qui ont les dossiers en main, les historiens, avait cette volonté résolue, j'ai dit tout à l'heure, d'aplanir les difficultés, de travailler. Les archives sont ouvertes, c'est un engagement du président de la République française, de 1830 à 1962, et du côté algérien, il y a cette volonté, de travailler sur ces archives et de passer en revue tout ce qui a pu blesser, faire mal, assombrir sur le siècle et 32 ans de colonisation, dont je répète que le système colonial est foncièrement raciste et qui n'a pas honoré les idéaux du siècle des Lumières, de l'humanisme et des idéaux même de la Révolution française. Donc regarder ça en face relève d'une grandeur d'une nation, la nation française. Regarder cela en face relève du génie du peuple français. Et donc les retombées premières sont aussi pour la France. Et du côté algérien, on finira par s'apaiser et voir que que les blessures du passé sont reconnues et prises en charge dans leur, j'allais dire, thérapie pour sortir définitivement de ce trauma qui ne cesse d'être transmis de génération en génération.
La présence du président de la Fondation de l'Islam de France, vous-même, au sein de cette délégation, comment l'avez-vous interprétée?
Une reconnaissance du travail accompli, et c'est ce qui a été dit, et c'est sous cet angle-là que cette présence se justifiait. J'en sais gré au président de la République de le reconnaître.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher. La première ministre tunisienne est en France. Najla Bouden a pour la première fois rencontré son homologue française, Elisabeth Borne. Une rencontre notamment sur des volets économiques et financiers de la coopération bilatérale. La chef du gouvernement tunisien, qui participe à l'invitation du MEDEF aux rencontres des entrepreneurs de France 2022. Les efforts des secours s'accentuent pour venir en aide aux dizaines de millions de Pakistanais affectés par les pluies de mousson, des pluies tombées sans répit depuis juin dernier. Elles ont submergé un tiers du pays et causé la mort de plus de 1100 personnes. Les autorités estiment à plus de 10 milliards de dollars le montant nécessaire pour réparer les dégâts et reconstruire les infrastructures endommagées par ces inondations. 7 corps ont été repêchés en Méditerranée par les autorités espagnoles. Cela s'est passé entre dimanche et hier. La police espagnole indique qu'il s'agirait de personnes d'origine nord-africaine qui avaient quitté leur pays d'origine et navigué dans une embarcation de fortune entre le 1er janvier et le 15 août dernier. 16 378 candidats à l'exil sont arrivés par la mer en Espagne. La mort du chanteur libanais Georges Al-Rassi, samedi dernier, il était âgé de 42 ans. Il est décédé dans un accident de voiture, un accident à Masna, au niveau de la frontière entre le Liban et la Syrie. Il venait de franchir la frontière syrienne en direction du Liban. La question énergétique au cœur de la rentrée politique en France. Un conseil de défense consacré à la crise de l'énergie se tiendra vendredi prochain à l'Élysée. Une réunion sur l'approvisionnement en gaz et en électricité en vue de l'hiver à venir. La première ministre a appelé les entreprises à réduire leur consommation avant l'hiver pour éviter toute coupure et catastrophe économique. Cela dans le contexte du conflit ukrainien et des risques de rupture des approvisionnements en gaz russe. Et justement dans ce contexte, le groupe français Engie annonce que le géant russe Gazprom l'a informé de réductions supplémentaires et immédiates de ses livraisons de gaz auprès de lui. Cela en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application de contrat. Les livraisons de gaz russe à Engie avaient déjà considérablement diminué depuis le début de la guerre en Ukraine. L'invité de Pluriel hier soir était Dienaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux. Elle a exprimé son inquiétude face à la forte hausse des prix. Elle a aussi évoqué le coût du pass Navigo pour les lycéens d'Île-de-France, 350 euros par adolescent à payer en une seule fois d'ici la fin septembre. Extrait de cette émission avec Dienaba Diop.
Je suis particulièrement inquiète puisque beaucoup de nos concitoyens, ont déjà basculé dans la précarité. Ça, c'est une réalité. Mais l'inflation, les problèmes que nous avons aujourd'hui avec la flambée des prix, notamment des matières premières, on l'a vu pour l'huile et aussi pour la farine, etc. Moi, je crois qu'il faut absolument qu'il y ait un accompagnement très vite. Moi, je ne comprends pas que les transports en commun ne soient pas gratuits. Beaucoup de pays l'ont fait, notamment en Espagne. Pourquoi les transports en commun ne sont pas gratuits au vu justement du contexte actuel? Moi, je ne comprends pas que nos lycéens soient obligés de payer justement ce pass Navigo. C'était l'une de nos propositions justement phare lors de la campagne des régionales avec Audrey Pulvar et d'ailleurs les socialistes, mais aussi beaucoup des listes, que ce soit Clémentine Autain ou que ce soit Julien Bayou, l'ensemble de la gauche demandait une gratuité des transports, notamment pour nos jeunes. Et là, on comprend pourquoi. 350 euros à régler en une seule fois pour les familles, c'est un poste beaucoup trop important et certaines familles ne seront pas en capacité de le faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos jeunes vont se retrouver soit en fraude, parce que les parents n'auront pas la capacité de pouvoir payer. Et moi, je pense que c'est un vrai problème pour notre jeunesse aujourd'hui.
Alors, il y a aussi la crise de l'énergie qui se profile, Dienaba Diop. Le gouvernement assure que les Français ne paieront pas plus cher leur énergie. Et en même temps, Emmanuel Macron annonce des temps difficiles et la fin de l'abondance. Est-ce que la France est prête à passer un hiver dans de bonnes conditions?
non, la France n'est pas prête à passer un hiver dans de bonnes conditions. Et puis, on retrouve effectivement tout ce paradoxe d'Emmanuel Macron qui dit que oui, nous sommes prêts et qu'en même temps, c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance. La fin de l'abondance et de l'insouciance, mais toujours pour les mêmes. C'est-à-dire que c'est encore les Français qui déjà sont dans la précarité ou dans des situations difficiles qui vont être obligés de faire des sacrifices. Moi, je ne veux pas que les Françaises et les Français aient à choisir entre devoir pouvoir manger et pouvoir se chauffer cet hiver. Or, c'est ce qui attend un certain nombre de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Il faut des mesures fortes. C'est pour ça que nous voulions une augmentation des salaires liée à l'augmentation du SMIC. C'est pour ça que nous voulions aussi que les premiers kilowattheures soient gratuits pour les familles les plus précaires. On voit bien que les solutions qui sont envisagées aujourd'hui par les gouvernements sont insuffisantes. Et moi, j'ai vraiment très peur de cette déflagration. J'en parlais à votre antenne il n'y a pas si longtemps. Il va y avoir une déflagration sociale très importante qui nous attend les prochaines semaines. Si le gouvernement ne prend pas des mesures à la hauteur de l'urgence sociale et climatique qui nous attend. Je suis extrêmement inquiète et je crois sincèrement qu'il faut que le gouvernement écoute justement nos parlementaires, les personnalités à gauche qui alertent sur cette déflagration sociale qui nous attend. Je ne veux pas être dans la dramatisation et je crois qu'il ne faut pas dire comme avait dit notre président, nous sommes en guerre parce que la guerre que vivent nos compatriotes en Ukraine nous oblige et nous remet les événements à sa juste place. Mais nous sommes dans une crise qui s'annonce assez grave et je crois très sincèrement qu'il est important que nous ayons très rapidement des mesures à la hauteur. Et c'est-à-dire qu'il faut aussi faire confiance à ces élus de proximité pour se faire le relais de mesures fortes à l'attention de nos compatriotes. J'avais encore des amis qui me demandaient quels étaient l'ensemble des mesures qui avaient été mises en place pour le pouvoir d'achat. Ça n'est pas lisible. Il faut qu'il y ait un récapitulatif. On sait très bien que nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes ne bénéficient pas des aides, non pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais parce qu'ils les méconnaissent. Donc il faut aussi qu'il y ait une information au plus proche des uns et des autres pour qu'ils puissent savoir à quoi ils ont droit et pour qu'ils puissent en bénéficier. Parce que ça n'est pas toujours automatique.
Diéna Bahadiop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France. Elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez réécouter sur radioorient.com. Émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Il est 12h18. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.